À voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Zoé Sfez rencontre Jérôme Clément. Ce soir, choisir la culture, l'ordre dans le désordre.
Bonjour Jérôme Clément.
Bonjour.
On se retrouve pour ce troisième épisode, cette troisième rencontre. On a évoqué votre enfance, on a parlé de votre engagement politique naissant, toute cette décennie qui a précédé l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et en fait, pendant ce temps-là, vous investissez déjà ce champ qu'est la culture. Vous choisissez la culture au moment où vous sortez de l'ENA. Pourquoi la culture ?
Oh, l'ENA, comme je vous l'ai dit, ça me... L'idée de travailler pour l'État et pour le bien public, oui, ça me plaisait. Mais j'ai toujours détesté les corporatismes. J'avais été directeur de cabinet du préfet quand j'étais à Montauban, en stage de préfecture.
Et, Parce qu'on fait des stages quand on est à l'ENA.
Je faisais un stage de préfecture, j'étais directeur de cabinet du préfet de Montauban. Voilà, le maintien de l'ordre, les informations qu'on avait par les renseignements généraux, le corps préfectoral, tout ça, ça me plaisait qu'à moitié. Et l'idée de me retrouver diplomate, j'avais été au Quai d'Orsay, tout ça, on n'était pas assez libre. Quoi. J'avais besoin de... Moi, j'ai horreur des contraintes imposées par l'appartenance à un corps. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Le ministère de la Culture, ça avait un côté assez, à l'époque, enthousiasmant, assez jeune, un peu bordélique, tous ces... Voilà, c'était pas très organisé, mais moi, ça me plaisait assez, cette sorte de désordre dans l'ordre. J'aime bien le désordre dans l'ordre, j'aime bien qu'il y ait un cadre, mais j'aime bien qu'à l'intérieur, ça parte un peu dans tous les sens. En plus, il y a alors quelque chose de totalement anecdotique, pour lequel j'ai choisi ça, c'est que j'aime beaucoup le Palais Royal. Et l'idée de travailler au Palais Royal... Me séduisait beaucoup. Je trouvais que arriver tous les matins dans la cour et travailler rue de Valois, je trouvais ça chic. Et pour la beauté des lieux, le mélange de l'architecture... Mais c'était déjà un choix culturel, si vous voulez, que j'avais aucune envie de me retrouver dans des bureaux anonymes, dans un couloir B52, je sais pas quoi. Là, c'était différent. J'avais d'ailleurs un ancien appartement comme bureau qui était avec une salle de bain et un appartement qui avait été transformé en bureau, donc c'était plutôt rigolo. Ça me plaisait bien. Quoi. C'est comme quand on était à l'ENA et qu'on avait voulu contester la structure hiérarchique interne. C'était pareil, quoi. Moi, j'étais dans l'État, mais j'étais à la culture. C'était autre chose. Et puis, j'aimais les artistes.
Vous aimiez les artistes parce qu'en plus, à ce moment-là, évidemment, toute cette décennie 70, c'est absolument l'explosion. Vous avez rencontré très jeune Patrice Chéreau. À ce moment-là, il y a Ariane Mouchkine, dont vous parlez très souvent, aussi bien en interview que dans vos livres. Que vous présentez toujours comme une figure à la fois extrêmement libre et très rassurante. Il y a quand même une explosion à ce moment-là que vous suivez.
Chéreau, on était au lycée ensemble, là aussi, c'est des rencontres, j'ai eu de la chance. On était au lycée Montaigne ensemble, on s'est connus, on avait 10 ans, quoi. Donc on s'est suivis après toujours et finalement toute sa vie, parce qu'on a eu des parcours qui ont fait qu'on a travaillé ensemble toute notre vie, pratiquement, enfin beaucoup. Donc évidemment, il a beaucoup compté pour moi, parce que c'était un personnage majeur, mais on en parlera, je pense, plus longuement à d'autres moments. Mais voilà, il était habité, lui, par la fièvre théâtrale, dès qu'on s'est connus à Montaigne et puis au lycée Louis-le-Grand. Ariane Mouchkine, c'est autre chose, je ne la connaissais pas du tout, mais 1789, ça a été un choc. C'est-à-dire que là, quand j'ai vu cette pièce, j'ai eu quelques chocs théâtraux. Le théâtre, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Mais quand c'est réussi, c'est absolument extraordinaire. Ça procure une émotion indicible. Et je dois dire que je l'ai éprouvé avec 1789. J'avais trouvé ça comme manière d'aborder le théâtre, de raconter une histoire... avec ce côté battleur, populaire, grand public, surprenant, les spectateurs mélangés aux acteurs, l'accueil, là où elle était, je crois qu'à l'époque c'était pas la cartoucherie, non, mais ça m'a beaucoup frappé. Voilà, d'un seul coup, ça m'a enthousiasmé. Parce que je connaissais la Comédie Française, ma grand-mère m'y emmenait quand j'étais petit. Elle avait sa loge, donc on y allait toutes les semaines. Ce qui m'a fait connaître le répertoire classique, je regrette pas du tout ça, parce que j'ai quand même entendu tout Racine, tout Corneille, tout Musset, etc. Mais là, c'était autre chose. Ça décoiffait.
À cette époque-là, avant l'arrivée au pouvoir de la gauche, vous travaillez donc, vous occupez d'architecture au Palais Royal, essentiellement.
Oui, j'adorais ça.
Et en parallèle de ça, vous avez votre fille militante, oui. Parti socialiste, et il y a ce quarantenaire du Front populaire où vous décidez d'organiser une exposition. En parallèle aussi, je crois, vous participez à ce qu'on appelait l'atelier culturel, qui était quand même des moments où on essaie de réfléchir à ce que serait potentiellement une politique culturelle de la gauche avec cette vie culturelle foisonnante qui explose à ce moment-là. Quel souvenir vous en gardez ? Qu'est-ce que ça crée chez vous ? Qu'est-ce que vous construisez à ce moment-là ?
Bah, je construis ce qui m'a guidé toute ma vie et ce qui m'a été très utile d'ailleurs quand j'étais à Matignon. C'est pour ça que j'ai plus appris dans ces années militantes que sur les bancs de l'école. Moi, j'étais passionné quand j'ai fait l'anniversaire du Front populaire par ce mouvement extraordinaire de 36 dans lequel il y a eu une effervescence théâtrale, le groupe Octobre, les peintres Sasliski, Pignon, etc. Le cinéma aussi avec Renoir, tout ça. Bon. Et je me demandais si, en 80, je me suis demandé si on arriverait à faire la même chose. Et quand j'ai étudié le Front populaire et organisé cette exposition à la Bastille avec très peu de moyens, c'était l'ancienne garde à la Bastille, j'ai été voir des gens qui avaient vécu cette période. J'ai été voir Talpin qui aidait Marceau Pivert, qui était à la gauche de la gauche du PS à l'époque, enfin de la CFIO plutôt, qui avait fait beaucoup de choses avec Marceau Pivert. Marceau Pivert était à Matignon, il s'occupait de la culture et du cinéma. Bon, des gens qui sortaient, j'étais voir la veuve de Léo Lagrange, Madeleine Léo Lagrange, que j'étais voir dans son appartement qui est Malaquais, donc des gens qui étaient encore vivants et qui m'ont raconté toutes ces histoires et qui m'ont donné des photos, qui m'ont permis de prendre conscience de ce que ça avait été. Ça m'a absolument fasciné. Donc j'ai essayé de rendre compte dans cette exposition de tous ces mouvements d'effervescence créatrice. J'étais voir des peintres, il y avait encore Taslitsky dont je parlais tout à l'heure, et d'autres qui étaient dans un mouvement révolutionnaire, comme le mouvement futuriste a accompagné la révolution d'octobre en Russie en 1917. Ça me passionnait. Je trouvais que le mélange, comme Mayakovsky, quoi, le mélange entre les intellectuels et la politique, c'était pareil. Il s'agissait de faire bouger la société et de l'accompagner dans son expression artistique et politique.
Et Jérôme Clément, à cette arrivée au pouvoir de François Mitterrand, on sort de deux mandats, donc Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, qui étaient des hommes, en particulier Pompidou, cultivés, mais il y a quand même la sensation qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, justement, d'une vision totalement intriquée de la culture et de la politique. Vous parlez très clairement d'utopie à ce moment-là. C'est ça qui se passe pour vous ?
Oui, c'est-à-dire que Pompidou, on voyait bien, et surtout sa femme, qu'elle s'intéressait à l'art et qu'elle, c'était des personnages très éclairés. Et j'avais auparavant travaillé avec Michel Guy. Michel Guy, dans les années 74, a été secrétaire d'État à la culture de Giscard d'Estaing. Et je me suis très très bien entendu avec lui. Moi, j'étais fonctionnaire au ministère de la Culture et j'adorais discuter avec Michel Guy, qui me taquinait toujours en me disant vous, les gens de gauche, etc. Et moi, je le taquinais en disant écoutez, voilà, vous, les gens de droite, etc. Mais en fait, on s'entendait sur les valeurs artistiques parce qu'il était passionné par les créateurs et qu'il avait un goût formidable. Il m'a fait connaître Bram Van Velde, il m'a fait connaître Wilson avec Le Regard du Sourd, etc. Il était illuminé par la création. Donc, je m'étais rendu compte que c'était pas si simple, quoi, d'ailleurs. Que c'était pas des schémas et qu'il y avait, pouvait être très passionné par la culture et avoir des opinions politiques complètement différentes. Bon, mais malgré tout, pour moi, le mouvement, c'était un mouvement global, quoi. Alors, on était aussi dans l'histoire d'Allende et de Neruda, on était dans tous ces mouvements qui politiquement et culturellement allaient dans le même sens, c'est-à-dire faire la remise en cause de l'ordre établi. Et ça me plaisait beaucoup, évidemment, je trouvais ça plus intéressant que le conservatisme. Et François Mitterrand représentait un peu les deux. Alors, moi, j'ai jamais été, au départ, j'étais pas du tout mitterrandiste, comme on dit aujourd'hui. J'étais au CRS et je peux pas dire que c'est pour moi c'était quand même l'homme de la guerre d'Algérie, le ministre de l'Intérieur de Guy Mollet, tout ça, pas de Guy Mollet, mais du gouvernement de la quatrième. Donc ça c'était pas mon truc. Et puis je l'ai rencontré en 78. J'avais été candidat aux élections législatives, on a oublié ça dans le parcours politique, dans le dixième. Et il était venu.
On vous avait parachuté dans le dixième alors que c'était pas votre circonscription de base et vous aviez perdu.
Voilà, c'était le quatorzième. J'avais perdu, mais enfin j'avais perdu honorablement. Et François Mitterrand était venu me soutenir et on se baladait avec lui rue Saint-Denis. Il m'apprenait à faire du porte-à-porte, à serrer les mains, à dire bonjour aux commerçants. Mais en même temps, on discutait dans la rue, j'avais des affiches, j'étais déjà barbu, mais un visage plus noir. Et il m'avait dit, mais vos affiches, on dirait un portrait de Corneille de Lyon. Et on avait commencé une discussion sur Corneille de Lyon, qui est à l'honneur en ce moment parce que c'était la même école, c'est l'école de Fontainebleau, avec Clouet et autour de François Ier, qui fait des portraits très fins, assez délicats. Et du coup, c'était un contraste formidable entre le poignet de main au commerçant et puis la discussion qu'on avait sur la peinture du XVIe siècle, de François Clouet, de Corneille de Lyon et de l'art du portrait en France, etc. Ça m'avait évidemment un peu interloqué. Et je me suis dit, c'est un homme cultivé et original. Et quand il est devenu président de la République et que j'ai eu l'occasion de le fréquenter beaucoup plus souvent, en particulier quand j'étais au CNC, quand je m'occupais du cinéma, évidemment, quand je déjeunais à l'Élysée ou dans les voyages que j'ai fait avec lui, j'étais toujours fasciné par sa culture, quoi, sa connaissance incroyable qu'il avait de la littérature, de la peinture, du cinéma, sa curiosité, sa grande éloquence, une véritable passion pour l'art. Et j'ai fait des tas de voyages avec lui. Je me souviens au Québec avoir été avec François Mitterrand voir Antonine Maillet. On avait pris un hélicoptère pour aller en Gaspésie, simplement parce qu'il voulait discuter avec elle, passer 2 heures et s'échapper d'une conférence sur la francophonie qui l'ennuyait. Mais on avait été voir Antonine Maillet. Ça m'avait beaucoup frappé et beaucoup intéressé, évidemment. Ou pour aller... je l'avais emmené, après la mort d'Aragon, dans l'appartement qu'il occupait rue de Varennes, où Aragon avait écrit sur les murs des tas de poèmes et posé des cartes postales. On avait passé toute une journée, quelques heures en tout cas, il y avait Eric Orsenna qui était là aussi. Et on avait une grande discussion sur Aragon. Enfin, tout était prétexte à parler culture. Quand je revenais du centre du cinéma, du Festival de Cannes, il me disait, alors, qu'est-ce que vous avez vu, dites-moi un peu, est-ce qu'il y a des films intéressants? Et il m'avait surpris un jour où j'avais été très frappé par Thérèse d'Alain Cavalier qui avait un grand prix, et pas le grand prix, mais un prix spécial du jury, je crois. Et je lui dis, président, oui, voilà, le film d'Alain Cavalier, c'est vraiment remarquable. Et elle me dit, je me le suis fait projeter hier soir, on m'en a déjà parlé. Donc il avait déjà, et voilà, il était quand même tout le temps surprenant. Par son incroyable culture et sa curiosité et la diversité des sujets auxquels il s'intéressait, et en même temps c'était un grand politique. Alors ça me plaisait, quoi. C'est vraiment, ça m'a beaucoup fasciné, évidemment. Et une véritable passion pour les artistes, que j'avais repéré d'ailleurs aussi au Parti communiste avec Roland Leroy, qui est un homme très cultivé, ou avec Jacques Ralite, et que j'ai retrouvé, que j'ai essayé de mettre en pratique, ou avec Jacques Lang d'ailleurs aussi, même si on n'était pas d'accord sur tout, mais on avait quand même cette conviction très gramscienne, hein, très, très proche de Gramsci, que la culture et la politique, c'est un mouvement commun.
Il y a eu les moyens de quand même, à cette époque-là de faire ça. Oui. C'est aussi une question de moyens, parce que oui. Là, vous parlez d'un président cultivé. Vous avez publié un livre qui s'appelle L'urgence culturelle,
oui.
Qui dénonce pas nécessairement le niveau de culture des présidents qu'on a eu ces dernières années, quoique, mais au moins leur intérêt, qui est oui. assez pauvre, selon vous. Là, clairement, vous avez eu des moyens.
Mais on a eu les moyens parce qu'on voulait nous donner les moyens. C'est-à-dire que quand le budget de la culture a été doublé, c'était une décision politique. Évidemment, je me souviens très bien des discussions qu'on avait dans l'équipe de Pierre Monroy. Beaucoup étaient complètement contre. Ils trouvaient ça fou. Mais voilà, c'était une décision, une volonté de dire, non, la culture, c'est important, ça doit être au cœur du projet de société, parce que l'émancipation, la lutte contre les inégalités, l'insertion dans la société et l'épanouissement personnel passent par là. Et c'est le devoir d'un État et d'une équipe politique de donner les moyens à tous ceux qui ne l'ont pas de pouvoir avoir accès à la beauté. Parler de la beauté, parler du beau, parler de la poésie, parler de s'ouvrir à la musique, c'est absolument capital, quoi. Donc, et je pense que c'était cette idée-là qui nous habite, qui nous habitait et qui m'habite toujours d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait Arte et c'est pour ça aussi que je continue à essayer de défendre ces idées où que je sois, parce que ça me paraît fondamental dans une société. Une société qui n'est pas capable de donner de la place à des artistes ou à la culture, c'est une société qui passe à côté de l'essentiel.
La vie, c'est pas ça. La vie, c'est la culture et c'est aussi le cinéma. Parce que le cinéma, c'est un des champs que vous connaissez le mieux. Vous avez beaucoup travaillé autour de ces questions-là. Arte, évidemment, a été un endroit qui a beaucoup changé la manière dont le cinéma a été pensé, financé par la télévision. Mais avant ça, vous avez dirigé le CNC pendant 5 ans et vous avez participé à pas mal de créations d'outils qui nous servent encore aujourd'hui, d'outils culturels importants. Le cinéma, vous aviez compris son importance, je crois, quand vous étiez au Caire. Parce que avant la victoire de la gauche, vous étiez au Caire et vous vous étiez rendu compte de l'absence, ou en tout cas le manque de présence des films français.
Bah, je voyais, c'est simplement en observant ce qui se passait autour de moi, je voyais à l'époque, quand on allait dîner chez des amis égyptiens, à l'époque, à 8h, je sais plus quelle heure c'était, tout le monde quittait la salle, ils allaient tous voir Dallas, le feuilleton américain de l'époque. Et voilà, alors je me rendais compte que ça avait une influence considérable sur les esprits égyptiens. Donc je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça à nous? Alors faire venir des conférenciers au centre culturel français, c'était très bien, mais ça touchait 300 personnes, à peu près toujours les mêmes. Donc j'avais décidé de passer des films à la télévision égyptienne, des films français. Alors, finalement, tout le monde m'avait dit, mais t'es fou, tu vas pas y arriver, bon... En fait, c'est toujours pareil, il faut oser. Alors j'avais été voir la directrice de la deuxième chaîne de télévision égyptienne et je lui ai proposé de passer un film français par semaine. Elle m'a dit d'accord si vous me l'apportez. Alors je m'étais mis en rapport avec la plaque tournante de l'époque sur le plan culturel qui était au Liban. J'avais un copain qui était là-bas qui s'appelait Patrick Imos, qui a fait ensuite une grande carrière à TV5 d'ailleurs et entre autres. Et je lui ai dit, envoie-moi les films. Mais on n'a pas les droits. Je lui ai dit, envoie-les-moi quand même. Donc, on allait chercher les bobines à l'aéroport. Je les portais moi-même ou je les faisais porter à la télévision. Et il les passait le soir. Donc, ça a marché un certain temps, au culot quand même, comme ça. Et alors, évidemment, au bout d'un moment, je me suis fait... On m'a fait des tas de reproches, on m'a dit, mais enfin, vous vous rendez pas compte, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça est interdit, enfin bref. De toute façon, dès qu'on fait quelque chose, il y a toujours des gens pour vous dire que vous n'avez pas le droit et que c'est très mal. Ça m'arrive encore maintenant, aujourd'hui, à l'Alliance française, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Mais moi, je pensais qu'il fallait avancer et que en faisant passer des films français à la télévision égyptienne, c'était, je faisais avancer la bonne cause. Évidemment, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était capital. Et donc, quand je suis rentré à Paris et que j'ai été au cabinet de Mauroy, et ensuite quand j'ai dirigé le CNC, ça j'avais compris. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse... peut-être que l'idée de faire une chaîne culturelle, qui n'était pas uniquement de moi, mais en tout cas, j'avais la conviction que c'était essentiel, mais qu'il fallait s'occuper de la télévision. Et quand j'étais au CNC, je me suis occupé des rapports entre le cinéma et la télévision. C'est l'époque de l'explosion des chaînes numériques, la création de Canal+, enfin numérique, non, satellite et câble.
Satellite
hertzienne, des fréquences hertziennes supplémentaires, puis ensuite le câble, puis le satellite. Et il fallait tout réorganiser pour que le système mis en place au CNC parlait avec les salles, les entrées en salle chutaient d'une façon terrible. On était tombé à 120 millions de spectateurs. On en a 200 aujourd'hui. C'était une catastrophe. Donc, il fallait inventer quelque chose.
Justement, et... c'était quoi? Qu'est-ce qu'il fallait inventer? Ce fameux système d'exception culturelle à la française dans le cinéma.
Il fallait. L'idée a été assez simple qu'on a pu faire en 86. Là aussi, les amitiés ont joué. Laurent Fabius était premier ministre. On avait des circuits courts de décision, ce qui était quand même essentiel. C'était de faire payer les télévisions. C'est-à-dire, ceux qui diffusaient les films devraient contribuer au financement de la production. C'était très simple. On a inventé une taxe sur le chiffre d'affaires des télévisions pour qu'elles payent la production cinématographique. Donc ça a renfloué le centre du cinéma, qui perdait évidemment de l'argent, et qui s'est vu d'un seul coup avec Edman. On a inventé le compte de soutien audiovisuel, on a inventé les Sofica, moi je me suis beaucoup occupé aussi de la création de la Fémis, qui a succédé à l'IDEC, enfin, de Rimage, donc on a inventé des mécanismes qui permettaient de faire face à une situation nouvelle, la chronologie des médias, tout ce qui est en train d'être mis en cause aujourd'hui, d'ailleurs pour d'autres raisons, mais à l'époque c'était nouveau. Et donc le cinéma français ne s'est pas effondré parce que à chaque instant, à chaque époque, on a pu s'adapter à des technologies nouvelles de diffusion. Et puis je suis rentré dans le cœur du métier. Donc j'ai connu des réalisateurs, des artistes, des metteurs en scène. Voilà, je suis rentré dans un univers que je connaissais assez mal auparavant. Comme je vous l'ai dit, j'avais une culture plus classique, littéraire, musicale, muséographique, mais je connaissais assez mal le cinéma et ça m'a permis de m'y plonger avec délice.
avec délice, parce que ensuite vous avez aussi été plus tard dans votre vie président du festival Premier Plan à Angers, qui est un festival.
Je suis toujours.
Vous l'êtes toujours. Quand je dis vous avez été, c'est que vous l'êtes devenu par la suite. Mmh. Et vous parlez souvent dans vos livres d'ailleurs des chocs esthétiques que vous avez eus avec le cinéma de Kieslowski, des Calogues, avec Alain Cavalier. Il y a des mots qui reviennent comme ça, Kieslowski, dont vous dites d'ailleurs que vous l'avez pas vraiment connu. Mais qu'est-ce que le cinéma vous fait ou vous a fait? Qu'est-ce que vous pensez que le cinéma peut faire à un spectateur? Qu'est-ce que ça peut procurer? Quelles sont les forces de ce média-là que vous avez défendu ou vous continuez encore à défendre?
Oui, vous avez parlé de Kieslowski. Quand j'ai vu le décalogue la première fois du Kieslowski, que je connaissais pas, ça m'a bouleversé. Exprimer les 10 commandements dans des petites histoires de la Pologne, j'ai trouvé que c'était admirable, et ça m'a beaucoup frappé. C'est pour ça que je les ai achetés et je les ai diffusés sur Arte. Mais enfin, bon, Tarkovski a fait des films extraordinaires, et je pourrais citer beaucoup d'autres cinéastes, dont un de ceux que je préfère, qui reste toujours Visconti. Bon, ça, c'est plus ancien, mais ou en Égypte, quand j'ai connu Youssef Chahine, par exemple. Donc des expressions très différentes de cinéastes dont certains sont devenus des amis et qui me touchent profondément parce que ils savent exprimer les tensions du moment, les tensions de l'époque. J'éprouve toujours et heureusement des grands moments d'émotion en voyant des jeunes autres. C'est ce qui me plaît à Angers au Festival Premier Plan, c'est des jeunes cinéastes, des premiers films, et d'un seul coup il y a une espèce de grâce absolument incroyable D'un jeune réalisateur, peut-être pas sur tout le film, mais qui même dans certaines séquences arrive à nous émouvoir et à nous toucher, parce qu'il raconte une histoire qui lui est propre, qui est propre à son pays, à son environnement, et qui nous fait comprendre, et qui nous touche, et qui nous fait comprendre un certain nombre de choses qu'on ne comprendrait pas sinon.
Et Jérôme Clément, quels sont les réalisateurs alors qui ont été les plus importants pour vous en tant que décideur? Parce que quand vous étiez à Arte, vous étiez décideur. Vous avez décidé souvent aussi avec votre cœur. Et puis je sais aussi que vous êtes beaucoup intéressé aux actrices. Vous avez notamment interviewé plusieurs artistes pour France Culture. Et vous avez écrit un livre, Les Femmes et l'amour, où vous interviewez plusieurs actrices. Quelles sont les figures comme ça dans le cinéma qui sont des figures qui sont importantes pour vous?
Oui, quand vous me parlez actrice, je pense évidemment à Jeanne Moreau, qui est morte cette année, dont j'étais très proche, qui a interprété le rôle de ma mère dans l'adaptation de Plus tard tu comprendras, faite par Amos Gitaï, avec qui j'ai beaucoup travaillé à Premier Plan à Angers. Jeanne Moreau, c'était une femme vraiment exceptionnelle, dans le talent et aussi dans le travail, quoi, parce qu'elle était très exigeante, pas facile, mais voilà, on avait une relation très proche qui m'a beaucoup touché. Donc je l'avais interrogée dans Les Femmes et l'amour, j'avais fait une séquence avec elle, et elle m'avait dit des choses très très touchantes sur ses liens avec Louis Malle en particulier, et voilà, c'est vrai que les actrices me touchent, et que j'avais aussi bien avec Isabelle Huppert qu'avec Juliette Binoche, qu'avec Nicole Garcia, qui sont des amies d'ailleurs, à des titres différents les unes et les autres, et puis d'autres, Emmanuel Levaux, Sandrine Kiberlin, qui sont des femmes qui s'investissent complètement dans leur rôle, qui sont extraordinairement touchantes, qui ont beaucoup de palettes. Et voilà, ça m'intéresse. Je trouve que le talent féminin, la grâce féminine, la capacité à interpréter tous ces rôles et à nous émouvoir, elle est magique au cinéma. Elle est totalement magique.
Plus les femmes que les hommes. Plus les actrices que les acteurs.
Oui, peut-être parce que je m'intéresse plus aux femmes qu'aux hommes en général. Donc ça, c'est voilà, c'est un goût personnel. Mais enfin, si on parle des hommes aussi, je dirais que Visconti, qui est un de mes réalisateurs préférés, Mort à Venise est pour moi un film absolument splendide qui a beaucoup compté pour moi, comme Le Guépard ou comme Ludwig Requiem pour un roi vierge. Voilà, là, il y a quand même plus de personnages masculins, mais il y a une esthétique chez Visconti que je trouve absolument extraordinaire et qui me touche beaucoup. Quelque chose qui me saisit d'une façon formidable.
Quel genre de cinéphile vous êtes? Est-ce que vous revoyez les films? Vous avez une grande télé ici dans votre maison.
Oui.
Vous les voyez une première fois? Est-ce que vous allez beaucoup au cinéma? Ou est-ce que vous avez une consommation un peu plus parfois intime, régressive des films?
Ah non, je vais beaucoup au cinéma. J'y vais en général au moins une fois par semaine, parfois plus. Oui, oui. Oui, vraiment très souvent et pour voir des films que j'ai pas forcément entendu parler. Voilà, j'ai vu récemment un film argentin, Malacca, le film africain. Enfin, je veux voir des tas de films différents. Non, ça j'aime bien aller au cinéma, toujours, j'y vais beaucoup. Mais j'en vois aussi à la télévision et je peux re-regarder certains films que j'ai beaucoup aimés. Alors, il y a Le Parrain, par exemple, c'est un film que j'aime beaucoup. On parlait de Visconti, ça, j'ai revu récemment Le Guépard, voilà, je sais pas combienième fois. C'est des films que j'ai toujours plaisir à revoir parce que j'y retrouve toujours des éléments... esthétique ou de réflexion qui m'intéresse et je m'en lasse pas, quoi. Je m'en lasse pas. Mais enfin, je préfère découvrir que revoir. Mais je pratique les deux. Les formes d'expression sont très variables. C'est pas l'opéra plus la peinture plus les beaux-arts. Chacun peut trouver son miel là où il l'entend. Mais je pense que le goût pour la musique, quelle que soit la forme de musique, pour le cinéma ou pour les séries ou pour... il reste grand. Le besoin de rêve, le besoin d'imaginaire, le besoin de s'évader du quotidien, c'est une forme de recherche de culture. Vous voyez, je prends ça sous une forme très très vaste et volontairement vaste. Et je pense que peut-être les réponses qu'on apporte à cette demande ne sont pas toujours satisfaisantes. Mais il faut les inventer. Il faut les inventer avec les jeunes, comme le hip-hop a répondu à une certaine demande ou... À un moment donné, et y a beaucoup de formes nouvelles de culture qui peuvent apparaître et qui correspondent à un besoin. Je crois que le besoin est toujours là. La réponse n'est pas toujours la même, il faut la mettre en forme.
Merci Jérôme Clément, on se retrouve demain.
Merci.
Vous trouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Jérôme Clément. À voix nue, réalisation Olivier Guérin, prise de son Yvan Turc, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.